Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, je vais suspendre provisoirement et temporairement mes sermons sur l'Apocalypse, parce que celui que je voulais vous faire pour aujourd'hui n'était pas mûr. Il me reste un ou deux sermons à vous faire sur l'Église triomphante, la dernière vision de l'Apocalypse, et puis après ça, je vous ferai un sermon de résumé dans lequel je dégagerai les idées forces. Je prêcherai donc aujourd'hui sur l'épître de la messe du jour, Saint Jacques, qui a une affirmation très étonnante. La religion pure et immaculée auprès de Dieu et du Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se garder immaculé du siècle présent. C'est très surprenant, parce que la religion pure et immaculée près de Dieu et du Père, on s'attendrait à quelque chose de très mystique, de très spirituel, et on a quelque chose de très concret au contraire. Tout d'abord, quelque chose qui peut paraître assez restreint, visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et puis une recommandation plus générale, mais qui est encore très concrète, se garder immaculé du siècle présent. En préparant mon sermon ce matin, je pensais à notre pauvre pape Léon XIV, et notamment aux audiences pontificales, qui sont un véritable délire de foule, qui s'enthousiasme, on ne sait pas très bien pourquoi, et surtout pour la personne du souverain pontife, qu'on veut prendre en photo, qu'on veut toucher. Et malheureusement, ce pauvre pape se prête au jeu. Le fait-il volontairement? Ne le fait-il pas volontairement? Ça m'est complètement égal. Ce que je sais, c'est qu'il se prête au jeu du monde. Et ce qui m'a paru le plus évident, c'est que ces audiences et cette attitude de fidèles envers le pape et du pape envers les fidèles, c'est la vulgarité. Pourquoi la vulgarité? Parce que ça n'a pas de noblesse. Et pourquoi ça n'a pas de noblesse? Parce que on ne sent pas Jésus-Christ présent, on ne sent pas le service de Dieu, on ne prie pas. Il n'y a pas une grande statue de la Très Sainte Vierge, Notre-Dame de Fatima par exemple, devant laquelle le pape viendrait s'agenouiller et demanderait aux fidèles de s'agenouiller avec lui pour réciter une dizaine de chapelets avant de commencer l'audience pontificale. Et puis il y a ces gorilles avec les écouteurs dans les oreilles, ce service d'ordre, vous voyez. Comme si un service d'ordre comme ça était efficace. Le président des États-Unis a un service d'ordre bien plus efficace. Et quand la franc-maçonnerie a voulu assassiner un président des États-Unis, une balle dans la tête, ça a été vite fait, bien fait, personne n'a pu s'y opposer. Et je me disais, je rêvais pour tout dire. Si j'étais le pape, j'irais voir les gardes suisses, les gardes pontificaux. Et je leur dirais, je me débarrasse de tous ces hommes du monde qui sont supposés me protéger. Et vous, belle jeunesse chrétienne, parce que pour être garde suisse, il faut avoir une moralité exemplaire. Vous, belle jeunesse chrétienne, c'est vous qui allez m'accompagner. Je prendrai deux d'entre vous qui me précéderont, deux d'entre vous qui me suivront. Ils auront un grand chapelet à la main, ostensiblement, et nous entrerons tous les cinq, de garde devant, de garde derrière, et puis moi le souverain pontife, nous entrerons tous les cinq en récitant le chapelet. Il est évident que les foules seraient frappées. Plus personne n'oserait crier. Tout le monde verrait qu'on est réunis pour l'honneur de Dieu, certes pour l'honneur du pape, mais l'honneur du pape pour l'honneur de Dieu. pas pour l'honneur d'un homme qui pourrait bien faire la couverture du prochain Times, l'homme le plus populaire de l'année. Et puis, en parlant très simplement aux gardes suisses, je m'adresserai à leur colonel en leur demandant, en lui demandant de mettre un chapelet à la ceinture des gardes suisses. Ou non pas que les gardes seraient des religieux, mais ce sont des chrétiens. Et ça fait partie de l'uniforme quand on sert le représentant de Dieu sur la terre. Et puis je demanderai qu'il y ait une croix, pas très grande, mais bien visible, autour du cou. Et toutes les télévisions du monde qui filmeraient les audiences pontificales verraient ces braves grands gaillards avec un chapelet à la ceinture. Et puis je leur demanderai d'élire, de choisir parmi eux le plus pieux, le plus humble, le plus doux. Et je lui demanderai à celui-là d'établir parmi ses camarades la confrérie du rosaire, sans aucune obligation. Ce ne serait pas dans le règlement militaire des gardes suisses, non, ça serait dans le règlement de leur cœur. Et puis je leur demanderai une dernière chose. Puisqu'ils sont à Rome, et que, évidemment, ils ont des permissions, ils ne sont pas toujours en service, je leur demanderai d'aller dans les quartiers les plus défavorisés de la ville de Rome. Il y en a. Et, en tant que représentant du pape, je leur demanderai d'exercer les œuvres de miséricorde. Et tout le monde saurait, petit à petit, il faut le faire sans ostentation, bien entendu, mais tout le monde saurait petit à petit que le pape se penche sur la vraie misère. Et qu'il se penche vraiment sur la vraie misère. Il faudrait qu'ils aient un uniforme moins voyant que l'uniforme rouge et jaune, mais de manière à ce que tout le monde sache, lorsque les gardes suisses sortent dans Rome, « Ah, voici le représentant du pape qui vient exercer la miséricorde. » Et puis on arrêterait de faire de l'œcuménisme et de parler des autres soi-disant religions. Tout cela, c'est pipé, ce sont les francs-maçons qui demandent qu'on parle de cela. Si on veut ne pas trop déplaire au monde, on est obligé de déplaire à Dieu quand on parle des autres religions aujourd'hui. Et puis si on veut proclamer la vérité haut et fort, on risque bien de blesser les cœurs. Parce que les francs-maçons ont tellement faussé le langage de l'évangile que proclamer l'évangile comme ça, brutalement, ça peut facilement blesser les cœurs. Oui, je sais, c'est surprenant. Alors, il faudrait faire ce que dit Saint Jacques. Il faudrait prêcher la religion pure et immaculée auprès de Dieu et du Père, la prêcher de cette manière simple et qui, elle, touche les cœurs, et visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et se garder immaculés du siècle. Non pas la prédication de François que Léon XIV reprend à son compte, à savoir d'aller vers les périphéries vulgairement avec un discours de syndicaliste, avec un zèle amer. Alors quand on aurait touché les veuves et les orphelins, avec les œuvres de miséricorde corporelle, on pourrait les toucher avec les œuvres de miséricorde spirituelle, enseigner les ignorants, et on leur parlerait de la croix de Jésus. Elle est le vrai seul baume efficace sur les blessures des hommes. Elle dispense de toute explication. Car visiter les veuves et les orphelins, c'est évidemment soulager leur misère, mais ici-bas, mes bien chers frères, vous le savez bien, on ne pourra jamais complètement soulager la misère corporelle des hommes. La grande mission de l'Église, c'est de soulager la misère des âmes. Pour cela, il faut passer par les œuvres de miséricorde corporelle, oui, mais surtout ne pas se limiter à elles. Elles ne sont qu'une porte qu'on ouvre vers les cœurs, pour parler de la souffrance de Jésus qui a partagé notre souffrance. Elles ne sont qu'une porte pour montrer que la souffrance est la peine due au péché et qu'il est plus important de sortir du péché, se garder immaculé du siècle présent, c'est cela, sortir du péché, sortir même de l'ambiance de péché, sortir de l'esprit de péché, cesser de fricoter avec le péché. C'est bien plus important que de soulager, guérir et faire disparaître nos misères spirituelles, parce que tant qu'il est sur la terre, l'homme nécessairement porte sa croix. Et quand on a ainsi soulagé des veuves et des orphelins, évidemment, à travers les œuvres et les orphelins, en réalité, Saint Jacques désigne tous ceux qui sont dans la peine, bien sûr, mais eux principalement, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont sans appui. Et aujourd'hui, des veuves et des orphelins, on en a des milliers, des millions, des veuves qui sont mariées et qui ont été abandonnées par leur mari, et des veuves qui sont mariées et qui ont été abandonnées par leur épouse, et des enfants qui ont deux parents et qui sont cependant sont orphelins, orphelins d'un de leurs parents, mais très souvent des deux, parce que celui avec lequel ils sont est souvent présent de corps, mais absent d'esprit. Et vous savez ce que je ferai, mes bien chers frères, à tous ces gardes suisses, dont beaucoup sont fiancés, puisque il n'est pas permis d'être garde suisse quand on est marié, parce que c'est difficilement compatible avec la vie de famille. Tous ces gardes suisses, je leur dirai, vous qui êtes fiancés, demandez à votre fiancé, là-bas, chez vous, en Suisse, de faire la même chose, de visiter les veuves et les orphelins. Vous, vous le ferez avec un cœur de père, elles le feront avec un cœur de mère. Et je leur dirai à ces braves gardes suisses, regardez comment elles exercent les œuvres de miséricorde et que ce soit le critère pour choisir celle que vous épouserez. Qu'elles comprennent ces femmes, si elles veulent vraiment vous mériter, qu'elles doivent faire comme Saint Jacques le demande, se garder immaculé du siècle présent et visiter les veuves et les orphelins. Ne croyez pas que de ne les voir que rarement pendant votre service pontifical. Ne croyez pas que de vous éloigner de toute promiscuité avec elles affaiblira votre amour. Au contraire, les œuvres de miséricorde qu'elles exerceront pour Dieu, au nom de Dieu, et pour vous, qui serait leur futur pape dans la famille. Tout cela, bien sûr, renforcera votre amour, non seulement le renforcera, mais le purifiera et surtout l'élèvera. Et puis cela ferait tache d'huile. Et aux évêques qui viennent à Rome, je leur demanderai la même chose. Plutôt que de faire des encycliques tonitruantes, souvent vides de sens, Fratelli tutti, tous frères. Je leur dirai à ces évêques, je vous jugerai, mes seigneurs, sur la qualité des œuvres de miséricorde de votre jeunesse, des jeunes qui sont dans votre diocèse. C'est ce que faisaient les évêques missionnaires. Ils jugeaient leurs prêtres en mission sur la qualité des catéchistes et leur dévouement. Alors très vite, on s'apercevrait que la première blessure du monde, c'est l'ignorance. Saint Pie X le disait déjà, il a consacré une encyclique à cela. L'ignorance, l'ignorance de Dieu, l'ignorance de la grâce, l'ignorance des merveilles de Dieu. Et c'est la première œuvre de miséricorde, enseigner les ignorants. Et tout naturellement, on donnerait des conseils. C'est la deuxième œuvre de miséricorde. Bien sûr, on partagerait les souffrances de ceux qui sont dans l'affliction. J'ai commencé par cela, bien entendu, parce que c'est une œuvre de miséricorde spirituelle qui est très proche des œuvres de miséricorde corporelle. Et la quatrième œuvre de miséricorde spirituelle, c'est de corriger les pécheurs. L'Église ne nous dit pas punir les pécheurs, elle nous dit corriger les pécheurs, c'est-à-dire les rendre droits. Correction, c'est rendre droit. Comme le faisait Saint Jean Bosco avec ses jeunes. Il punissait peu, mais il corrigeait beaucoup. Et la cinquième œuvre de miséricorde, c'est de pardonner les injures. C'est très difficile d'obtenir que les gens pardonnent les injures. Alors il faut commencer par les pardonner soi-même. Le pardon est reçu, il n'est pas reçu, il est accepté, il n'est pas accepté. La personne revient à de bons sentiments ou elle ne revient pas à de bons sentiments, peu importe. Nous, nous sommes décidés à ne pas tenir rigueur. Nous sommes décidés à accueillir celui qui nous a offensés au moindre signe de regret de sa faute. Et nous sommes bien plus que cela, décidés à l'aider à regretter sa faute de façon à ce que nous puissions l'accueillir. C'est ce que notre Seigneur a fait avec nous. Notre Seigneur ne s'est pas contenté d'attendre que nous lui demandions pardon pour nous reprendre dans son amitié. Il a suscité en nous ce retour à l'amitié. Comme il l'a fait pour Sainte Marie-Madeleine. Si cette grande pécheresse s'est mise aux pieds du Seigneur, c'est parce qu'elle avait été touchée extérieurement par le rayonnement de notre Seigneur et intérieurement par la grâce. Il lui a été beaucoup pardonné, dit notre Seigneur, parce qu'elle avait beaucoup aimé. Comment un pécheur peut-il aimer en étant pécheur? C'est parce que la grâce de Dieu lui avait donné cet amour. Et cet amour, une fois qu'il est donné et reçu, permet de recevoir le pardon. Nous aussi, nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. L'avant-dernière œuvre de miséricorde, c'est de supporter patiemment les injustices. Tant qu'on ne peut pas pardonner, on supporte. C'est tout. C'est déjà une forme de pardon. C'est déjà une forme de début de guérison pour la blessure de l'autre. Enfin, il faut prier pour les vivants, les défunts et pour ceux qui nous persécutent. Vous le voyez, mes bien chers frères, nous avons trois œuvres de miséricorde par rapport à ceux qui nous font du mal. Pardonner les offenses, supporter les injustices et prier pour ceux qui nous persécutent. Comme notre Seigneur qui a porté sa croix, qui a prié sur la croix pour que Dieu pardonne à ceux qui l'avaient mis à mort au bourreau. Pardonnez-leur, c'est-à-dire même aux membres de la synagogue qui étaient responsables de sa mort. Alors certes, mes bien chers frères, vous n'êtes pas les gardes pontificaux, mais vous êtes bien les gardes du Sacré-Cœur. À vous, Dieu a remis son honneur, l'honneur du Christ. Il vous a remis cet honneur le jour du baptême. Il vous l'a confirmé le jour de la confirmation. À chaque fois que vous vous confessez, il vous rend de nouveau digne de cet honneur. Et de plus en plus digne de cet honneur. Ah oui, je sais, mon sermon est quand même un peu théorique, bien que pratique. Et nous aimerions bien avoir des conseils, vous aimeriez avoir des conseils pratiques. Je suis absolument persuadé que si vous avez le désir d'exercer les œuvres de miséricorde, de faire aimer le bon Jésus, de faire aimer la bonne Sainte Vierge, si vous récitez votre chapelet, les occasions se multiplieront devant vous, vous n'aurez qu'à les saisir. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Notre-Dame de Fatima, convertissez les pécheurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.